J'avoue que là, je serais pas contre.
Boulevard 102.
h 24 sur Québec, 12 degrés à l'heure actuelle, 21 degrés au maximum aujourd'hui, c'est ensoleillé, 19 degrés nuageux pour mardi, mercredi 21 degrés, alternance de soleil et nuages. Chose certaine, il y a un endroit où il va faire chaud cette semaine et c'est dans les locaux de la commission Galland parce que passage de 3 ex-ministres au transport, 2 du Parti libéral du Québec, Laurent Lessard et André Fortin, un ex-ministre des Transports de la CAQ, François Bonnardel, et la ministre actuelle Transport et Mobilité Durable, Geneviève Guilbeault. Et pour parler de tout ça, c'est certainement le meilleur correspondant parlementaire du Québec, tiens, pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Il suit la commission Galland attentivement. Il est avec nous ce matin en ondes. Nicolas Lachance du Journal de Québec et le Journal de Montréal. Comment vas-tu, mon ami?
Ça va bien. Salut, Jeff.
Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de parler à nos auditeurs à Boulevard Against le matin. Je commencerai avec ceci. Est-ce que tu dirais que c'est la semaine la plus importante de la commission avec ces 4 ministres qui vont passer justement devant le commissaire Galland et qui vont répondre aux questions des procureurs?
Je dirais oui et non. Ça commence avec les anciens ministres libéraux, donc Laurent Lessard, on se souvient surtout de lui. Lors du fameux carambolage là, sur la 40 à une certaine époque, là, on se souvient de cette mésaventure. Et ensuite suivra là, André Fortin, qui est toujours député aujourd'hui de Pontiac, qui est le dernier ministre libéral, donc celui en 2017 qui était en place lorsque le fameux contrat a été signé. Après ça, ça risque d'être intéressant. Donc, c'est les ministres actuels. On va avoir M. Bonnardel, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel était ministre des Transports pendant quand même de nombreuses années, pendant 4 ans du projet, lorsque tout a dérapé, lorsque l'argent supplémentaire devait être mis sur la table, lorsqu'il y a eu une entente confidentielle entre le contractant et la société d'État pour faire exploser les prix. Parce qu'il manquait environ 800 000 heures. Là. Bon, vous avez peut-être suivi un petit peu la
question. Ah oui, vraiment, on fait énormément de nouvelles là-dessus d'entrevue.
Bref, on se souvient qu'on s'est rendu compte, après la signature du contrat, qu'il allait manquer 800 000 heures pour compléter la phase 2, donc de 3. Mm-hmm. Donc, il fallait aller trouver de l'argent. Donc, c'est lui qui était en poste. Ça va être intéressant parce que ça fait des semaines qu'on se demande qui savait quoi sur le plan politique et elle est où la ligne de... l'imputabilité ministérielle. Ah, c'est la question qu'on se pose.
Vraiment. Et là, Nicolas, tu as lancé une énorme bombe médiatique vendredi dernier lorsque tu nous as présenté preuve à l'appui avec des demandes d'accès à l'information que Carl Malenfant, l'architecte du projet Satlic, a eu 25 rencontres avec justement des ministres ou des sous-ministres, des employés politiques du gouvernement Legault.
Oui, et des hauts fonctionnaires. Au moins 25 avant le lancement catastrophique en février 2023. Donc, et tout a été abordé là, dans ces rencontres-là, que ce soit l'état de la situation, le suivi d'avancement, les budgets, les incidents qu'il y avait avant le lancement. Donc, qui était au courant de quoi?
Oui, c'est ça. Et là, rappelons le contexte qui est une élection provinciale. T'sais, on vient justement trancher, c'est-à-dire diviser des contrats en plusieurs parties pour que ça ne fasse pas de grand bruit là, durant cette campagne électorale-là 2022.
Bien, regarde, prenons le temps. Si tu veux, je vais refaire une petite ligne du temps. En 2020, bon, c'est la première fois qu'on sait qu'il va y avoir dépassement de coûts certain. Il y a une entente qui est conclu confidentiel en septembre 2020, faudra réinjecter minimalement 200 millions de dollars. OK? C'est une entente secrète. 2 jours plus tard, après cette rencontre-là, il y a, dans la demande d'accès à l'information qu'on a eue, il y a une rencontre au sommet avec le Conseil du Trésor. Donc, à l'époque, qui était l'espèce de gardien de l'argent public, des coffres publics? C'était le secrétaire du Conseil du Trésor, c'était Éric Ducharme, qui deviendra plus tard PDG de la SAQ dans la crise.
Ça, c'est intéressant, nommé par Geneviève Guilbeault.
Nommé par Geneviève Guilbeault. Donc, en 2020, qu'est-ce qui a été discuté à cette rencontre-là 2 jours après? Parce que s'il faut 200 millions supplémentaires, faut l'indiquer quelque part. Les fonds, il faut que ça vienne des fonds publics, du trésor public. À l'époque, la décision qui va être prise, ça va être de piger à même le budget qui avait été mis de l'avant, donc à même le contrat qui avait été signé. On pige, mais on sait que ça, il va en manquer de l'argent à un moment donné, là. On ne sera pas capable de terminer. Donc, en 2022, à l'été 2022, à l'aube des élections de 2022, on sait que ça va prendre 222 millions supplémentaires. Et là, on est pris avec ça. Et à la bon, il y a des rencontres avec des ministres qui ont lieu cet été-là, en juin 2022, avant qu'on parte pour les vacances puis qu'on entame la campagne électorale à l'automne. Et bizarrement, pour des raisons médiatiques et politiques, c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans les dossiers et dans le rapport de la vérificatrice générale, la SAQ décidera de scinder ce contrat-là en petits contrats pour pas que ça apparaisse pendant la campagne électorale sur le système de publication de contrats publics sur Internet. Donc, personne n'a pu voir la transaction pendant l'élection. Ce n'est qu'après même le rapport de la vérificatrice générale, que là, on a vu apparaître sur le système SAO, qu'on appelle là, ces fameux contrats. Donc, après ça vient la fameuse question, qui savait quoi? Les ministres clament haut et fort qu'ils ont été trompés.
Parce que là, il y a preuve qu'il y a eu cachotterie, là, ça l'a apparu après le rapport de la vérificatrice générale.
Ben, c'est une décision qui a été prise. Est-ce que le conseil d'administration et la SAQ, pourquoi prendre cette décision-là pour des raisons médiatiques et politiques? C'est quoi l'intérêt des gens de la SAQ de prendre cette décision-là? Elle est là aussi, la question. C'est pourquoi on prend une décision politique alors qu'on est un organisme public qui continue d'agir, peu importe le gouvernement qui est en place? Donc, pourquoi il y a une décision de cette forme, de cette nature-là qui est prise? Et bon, cette semaine, les ministres seront questionnés sur ces moments-là, ces rencontres-là, les rencontres de leurs conseillers politiques, de leurs sous-ministres, quelles informations ils ont reçues. Après, le rôle d'un ministre, c'est de s'assurer d'avoir la bonne information. C'est son impunité ministérielle. Parce que sinon, est-ce que c'est facile de constamment dire « on m'a menti, je ne savais pas ». Est-ce qu'on... C'est le rôle d'un ministre d'avoir l'information.
Mais justement, tu nous fais la ligne du temps, puis ça nous rappelle à quel point ça n'a pas de maudit bon sens. Puis là, on est bien excités parce que, entre autres, Geneviève Guilbeault, François Bonnardel vont témoigner cette semaine. À quel point il y a des chances qu'il y ait vraiment quelque chose qui sorte de ces témoignages-là? Parce que, tu sais, ça se peut que ça finisse encore une fois, hein? Je le savais pas, puis on me l'a caché, on me l'a pas dit. On va-tu vraiment apprendre de quoi, ou bien ça va être comme un coup d'épée dans l'eau?
Ben, c'est certain que comme journaliste, j'ai espoir. Nous, c'est beau, on a la liste des personnes qui ont rencontré Carl Malenfant, les dates. Tout ça, on a ça. Maintenant, est-ce que la commission a eu accès à plus? Donc, ils ont eu accès à la documentation. Qu'est-ce qui a été présenté au ministre concrètement? Est-ce qu'il y a des documents, des courriels qui vont ressortir? Donc, ils vont être quand même mis face à certaines évidences. On sait déjà, par exemple, qu'il y a un ex-PDG, Denis Marcellet, qui dit qu'il a informé le cabinet de M. Bonnardel de l'explosion des coûts. Est-ce que l'information s'est rendue oui ou non? Qu'est-ce qu'on a fait avec cette information-là? Qu'est-ce que les ministres ont compris de ces informations-là? Est-ce que Mme Guilbeault était au courant qu'il y avait des risques d'incidents puis que de déploiement catastrophique lorsqu'elle est rentrée en poste? Comment on l'a briefé? Elle a rencontré trois fois Carl Malenfant. Est-ce qu'elle était au courant des risques lors du déploiement? Parce que c'est vrai que Mme Guilbeault n'était pas là lors des dépensements de coûts, mais c'est elle qui a permis le lancement. C'est elle qui était à la tête du ministère lors du lancement, lorsqu'on a fermé la SAQ trois semaines, qu'on a décidé de la rouvrir en plein hiver. Donc, ce qui a mené à cette fameuse gestion de crise-là, ce qui a mené aussi au scandale. Hein. Soyons francs, des contrats informatiques, là, des scandales au gouvernement du Québec en informatique, il y en a un, deux, trois, quatre, on peut en compter plusieurs.
Mais ce qui a mené à ça, c'est le fiasco de la mise en place, là, les files d'attente en plein hiver, puis les gens qui n'avaient pas de service. Là.
Exactement. Je pense que ce qui fait office de scandale, puis pourquoi c'est aussi gros dans la société québécoise présentement, et pourquoi ça fait tant mal au gouvernement caquiste de François Legault, c'est justement ça, c'est que ça a marqué l'imaginaire. C'est un scandale informatique qui a touché les gens dans leurs habitudes. Ils sont restés pris dehors, à l'extérieur, ils n'étaient plus capables de payer leur permis de conduire. Ils se faisaient arrêter parce que, bon, leur permis était peut-être... Ils avaient payé leur permis, mais c'était pas rentré dans le système. Il y avait des problèmes avec la plaque...
Avec les plaques d'immatriculation.
C'est ça. Leur véhicule récréatif, par exemple, rendu à l'été. Donc, ça a touché les gens. Ça les a dérangés. Donc, le fait qu'en plus, il y a un scandale financier associé à ça, c'est devenu très gros. Donc, les ministres qui étaient au cœur de ce scandale-là, maintenant, cette semaine, devront s'expliquer. Est-ce que la question de base que tu m'as demandé, c'est est-ce que ça va être la semaine la plus intéressante? La fin de la semaine risque d'être très intéressante, mais il y aura la suite aussi. On va avoir Carl Malenfant qui va venir témoigner dans les prochaines semaines.
C'est un long témoignage. Ouais. Là. À cet effet-là,
est-ce
Nicolas...
Est-ce qu'il va vouloir couler ça? Est-ce qu'il va vouloir pousser quelqu'un en dessous de l'autobus? Est-ce que c'est... La fameuse question que je me demande, moi, depuis le début, et c'est celle que j'ai posée à la vérificatrice générale le jour 1, est-ce qu'un seul homme qui n'a pas le crayon qui signe les chèques là, a pu vraiment flouer tous les Québécois, les ministres, les sous-ministres, la haute direction, les conseils d'administration de 500 millions de dollars? Soyons francs, réfléchissons à cette question-là. Tout passe par les conseils des ministres.
C'est clair. Et par le Conseil du Trésor. À cet effet-là, est-ce que tu trouves particulier que Carl Malenfant témoigne après les ministres ou le fait qu'on l'ait rencontré à huis clos nous a donné assez d'informations pour venir justement acculer ces ministres-là au pied du mur?
Je me suis posé la même question. Il y avait une obligation d'y aller avec les ministres avant le début de la session parlementaire. Donc, il y a une date ils ne peuvent pas venir témoigner durant la session parlementaire lorsque ça siège. Donc, il fallait faire ça maintenant. Donc, c'est peut-être la raison pourquoi on a rencontré M. Malenfant en amont, à huis clos. C'est sûr qu'il va témoigner ensuite, mais les ministres et les gens peuvent toujours être appelés à témoigner à nouveau. Hein.
C'est vrai, on oublie cette particularité-là.
De revoir certaines personnes, de faire de nouvelles vérifications, s'il y a de nouvelles informations qui sortent. Mais je pense qu'il voulait s'assurer que les ministres aient témoigné avant le début de la session parlementaire. Il faudra voir aussi monsieur l'ex-ministre Éric Kerr qui devrait témoigner dans les prochaines semaines également. La PDG qui a été là pendant la majorité du projet, Nathalie Tremblay, donc qui devrait également venir témoigner. Elle était là, elle était présente à de nombreuses rencontres. C'est elle qui était présente lors de l'explosion des coûts. Donc, il y aura beaucoup de choses qu'elle devra venir expliquer publiquement.
C'est clair. On parle avec Nicolas Lachance, correspondant parlementaire pour le Journal de Québec, Journal de Montréal, sur cette semaine importante pour la commission Galant dans le fiasco Saclique, présence de 4 ministres, anciens ministres, Laurent Lessard et André Fortin pour le Parti libéral du Québec et François Bonnardel et Geneviève Guilbeault pour la coalition Avenir Québec. Nicolas, c'est une semaine déterminante pour François Bonnardel et Geneviève Guilbeault pour leur place au sein du Conseil des ministres, le remaniement qui sera fait là, par François Legault début septembre.
Oui, clairement. On voit Mme Guilbeault un peu agir énormément depuis plusieurs semaines dans ce dossier-là. On dirait qu'elle a voulu prévenir les coups, démontrer qu'elle agissait et qu'elle essayait déjà de changer certaines choses. Elle a été très active, elle a décidé de faire le ménage avant même la fin de la commission, le dépôt du rapport et les recommandations. Donc, il y a des gens qui viendront témoigner qui ont perdu leur emploi, que ce soit M. Éric Ducharme, ex-PDG, ou Caroline Folbesbus, qui est l'ancienne directrice générale du projet.
Ça peut être très catastrophique pour la CAQ, ça, quand on a congédié quelqu'un. Il peut décider de venir laver son linge sale en famille, là, mais pas en famille, laver son linge sale au public.
Je rappelle que ce sont des gens qui ont quand même des emplois à vie. Là, présentement, M. Ducharme
a
le même salaire, les mêmes conditions, mais moins d'emploi, moins de travail. Et ça sera la même chose pour Mme Folbesbus. Comme j'ai sorti la semaine passée, elle réintègre son statut de cadre 1 à la SAQ. Mm-hmm. Là, pour l'instant, elle est de retour en vacances. Mais lorsqu'elle reviendra, oui, elle n'est plus vice-présidente, mais elle est quand même toujours à l'emploi de la SAQ comme cadre 1. On va la mettre sur des mandats particuliers. Donc, après ça, est-ce qu'ils ont une loyauté envers certaines personnes? Ça reste à voir. Je pense que... Est-ce que tout le monde tente un peu de se protéger? Est-ce qu'on tente de protéger les ministres dans ce dossier-là? C'est la question qu'il faut se poser également. On verra la direction, où iront les procureurs, qu'est-ce que M. Galland est en train de savoir. Est-ce qu'ils ont déjà une idée de qui sont les responsables du fiasco? Alors, on se rappelle qu'une commission d'enquête publique, c'est pas un procès criminel, donc il n'y aura pas d'accusation ni rien. à la suite de ça. Mais bon, l'enquête de l'UPAC est toujours en cours. Même chose pour l'enquête de l'Autorité des marchés publics. Donc, peut-être qu'ensuite, il pourra y avoir des surprises. Pour l'instant, on n'a pas cette impression qu'il s'agit d'un cas de corruption, là.
Ouais.
Est-ce que c'est de l'incompétence, juste de l'abus de fonds publics?
Faudra
voir, parce qu'il y a tellement de gros projets informatiques qui s'en viennent au gouvernement du Québec dans les prochaines prochaines années.
Mm-hmm.
Saclic était le premier grand projet de transformation, donc il faudra s'assurer qu'on apprenne quelque chose de tout ça.
Clairement. Nicolas, on te laisse là-dessus. Je te souhaite un excellent spectacle cette semaine. Je pense que ça va être très divertissant pour toi.
Oui, ça reprend dans 20 minutes.
Exactement. Continue de nous informer, justement, comme tu le fais si bien, via les médias de Québécois, c'est-à-dire Journal de Québec et Journal de Montréal, pour plaisir de se reparler là, en cours de route.
Parfait. Merci beaucoup. Salut, bonne journée.
Salut, Nicolas. C'était Nicolas Lachance, correspondant parlementaire pour le Journal de Québec, Journal de Montréal. Si vous avez jamais lu un de ses articles ou un de ses dossiers, je vous invite à le faire. Il est toujours sur la coche, Nicolas, qui sort vraiment énormément d'informations là, exclusives après avoir épluché énormément de dossiers et de demandes d'accès à l'information. Je vous fais écouter, messieurs, François Bonnardel, dans l'émission du Trizac sur le 99.5, c'était le 24 mai dernier.
Vous avez été ministre des Transports. Hein? Là, vous êtes ministre de la Sécurité publique. On a parlé du scandale de la SAQ, là, la SACLIC. Comment je poserais ça, cette question-là? D'abord, où est-ce que vous étiez? Le saviez-vous? Collusion, fraude, corruption, on apprend toutes sortes d'affaires. Le saviez-vous, tout ça?
C'est pas l'envie qui manque, M. Dutrizac, de vous dire ce que je sais.
Mais faites-vous plaisir.
Est-ce que je ne savais pas? En tout respect pour le commissaire, pour les procureurs, je vais garder mes commentaires pour moi. Mais c'est ça. Ça me tente très énormément de vous donner des éléments de réponse, mais je le ferai pas.
Je suis content qu'il ait dit ça le 24 mai parce qu'il va avoir la chance cette semaine de dire ce qu'il sait.
Et normalement, là, il est supposé, là.
Ben, pas le choix, là.
Normalement, il faut qu'il nous dise ce qu'il sait.
C'est ça.
Il a envie.
Il a envie, il a le goût.
Ben, il avait envie, c'était au mois de mai, ça.
Ouais, 24 mai.
J'espère qu'il a encore envie.
Ben, penses-tu qu'il a encore autant envie un 18 août que le 24 mai?
Pas sûr.
Moi non plus, pas sûr, parce que on se le cachera pas. Là, avec ce que Nicolas Lachance a sorti vendredi dernier de 25 rencontres de Karl Malenfant avec les équipes des ministres qui ont passé justement sous la CAQ, ouais, avec Karl Malenfant qui a rencontré le commissaire et les procureurs à huis clos.
Ouais.
Ça étende peut-être moins.
Je pense que il y a peut-être des choses qu'il a encore envie de dire.
Ouais, peut-être.
Mais je sais pas, il y en a peut-être qu'il a ben envie de garder pour lui aussi.
Bref, l'avenir politique de François Bonnardel et Geneviève Guilbeault se joue cette semaine.
Ouais, puis c'est ça qui me fait peur.
Dans le sens qu'ils vont devenir les avec Éric Kerr, ceux visés, puis après ça, on va continuer à dépenser des millions comme on le voit dans
non,
le système
mais
de la santé.
Pas nécessairement, c'est juste que je me demande à quel point ça va servir à quelque chose. Puis je me demande à quel point on va vraiment savoir quelque chose. On sait à quel point Geneviève Guilbeault est bonne là, pour jouer ses mots, puis nous amener quelque part, puis... ça va être de la faute à quelqu'un d'autre. Pour le spectacle, ce serait bon qu'elle dise que c'est la faute à Bonnardel, là. Ça, pour le spectacle, j'haïrais pas ça. Là.
Parce qu'elle avait déjà embarqué là-dedans à l'Assemblée nationale. Elle avait dit qu'un cerveau au transport, c'était le fouillé. Elle parlait alors de financement pour les sociétés
mais là,
de transport.
Mais là, c'est pas ça qu'elle voulait dire.
Non.
Là, la seule possibilité de bon spectacle que je vois, c'est si Geneviève Guilbeault te sac Bonnardel en dessous de l'autobus.
C'est elle qui va passer en dernier. Peut-être qu'elle va avoir le goût. Mais ça
m'étonnerait. Ça va peut-être dépendre de ce que lui dit avant aussi.
Exactement. Donc, à suivre cette semaine, semaine déterminante dans la commission Galant. Évidemment, ici, à Boulevard Against le matin, on va vous informer des détails jour après jour. On fait une courte pause et par la suite, Max Larouche, t'es allé dans plein de festivals cette année.
On a fait une coupe, puis il en reste, là, mais on a quand même assez pour faire un bon récapitulatif.
Exactement. Je veux que tu me parles de ça. Je sais que tu l'as fait week-end tout à l'heure ce matin. Je veux que tu me parles de tes festivals, C'est quel ton préféré? C'est qui tes artistes coup de cœur? Donc, je veux qu'on jase de ça. Et on va inviter les auditeurs 418-971-1021 à parler également de leur festival, de leur coup de cœur musical de l'été. On parle immédiatement de ça. Après cette courte pause, vous êtes à Boulevard 101. C'est Boulevard Against le matin. Boulevard 102.